VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 12 août 2019. En direct de Washington, Idriss Assedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, la police use de grenades lacrymogènes pour disperser une parade des militants du parti Les Transformateurs.
Au Nigeria, la fièvre jaune tue au moins 20 personnes dans le sud-est du pays.
En Tanzanie, fin aujourd'hui du deuil national, décrété à la suite de la mort de plus de 70 personnes dans l'explosion d'un camion-citerne.
Des heurts entre policiers israéliens et fidèles palestiniens ont fait hier des dizaines de blessés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
Ici aux États-Unis, indignation et théorie du complot, dont une retweetée par le président Donald Trump après la mort en prison du financier Jeffrey Epstein.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, les éléments du groupement mobile d'intervention de la police ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les militants du parti Les Transformateurs lors de leur parade hier à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Tchad. De N'Djamena, correspondance d'André Konmajinga.
Les militants du parti Les Transformateurs ont un mauvais souvenir de ce 59e anniversaire de l'indépendance du Tchad. En voulant donner un cachet particulier à cette journée à travers une opération « Un Tchadien, un drapeau » où plus de 2000 drapeaux ont été réunis pour distribuer aux citoyens, ces militants ont été violemment dispersés à l'aide de gaz lacrymogène par les éléments de la police nationale. Le président de la dite formation politique suisse Masra explique sa mésaventure.
On a retenu à peu près 5 cités qui sont sortis du véhicule en train de distribuer les drapeaux et du coup ils ont commencé à tirer. Il y a l'un des jeunes qui a pris beaucoup de gaz, là il est tombé. Mes agents de sécurité m'ont remis dans la voiture en précipitation. On a quitté. Donc voilà comment on assure la sécurité des paisibles citoyens qui chantent l'hymne national, qui ont les drapeaux du pays entre leurs mains.
Un caméraman d'une télévision privée qui suivait le mouvement des transformateurs a été lui aussi violemment brutalisé et ses matériels de reportage arrachés par la police nationale. En juin dernier, lors du lancement officiel du parti, le véhicule du président succès Masra qui était dans le corps a été visé et lui-même blessé par ces éclats. Une plainte a été déposée contre les responsables de la police et l'affaire est encore pendante devant la justice. André Kodmadingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Au Nigeria, le Centre pour le contrôle des maladies a confirmé qu'au moins 20 personnes sont décédées des suites d'une épidémie de fièvre jaune dans le sud-est du pays. D'autres cas ont également été signalés dans plusieurs États le mois dernier au Nigeria. Précision de notre correspondant Gilbert Tamba.
Le chef du Centre de contrôle des maladies, Chike Iwekezu, a révélé dans un communiqué que l'épidémie n'a pas été détectée à temps par les autorités locales, causant ainsi la mort de plusieurs personnes entre mai et début août 2019 dans l'état d'Ebonyi dans le sud-est. Selon lui, l'équipe épidémiologique de l'état réagit suite à trop nouveaux cas testés positifs au virus de la fièvre jaune dans le laboratoire d'analyse. Depuis 2017, le Nigeria a enregistré des cas de fièvre jaune dans tous les états du pays. Du 1er janvier au 31 juillet de cette année, 78 infections ont été confirmées en laboratoire. La maladie qui peut être prévenue par la vaccination se transmet par la piqûre des moustiques infectés. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, demandant aux Nigériens de garder leur environnement propre afin d'empêcher la propagation de la maladie.
En Tanzanie, c'est aujourd'hui que prend fin le deuil national, décrété samedi par le président John Magufuli, suite à l'explosion d'un camion-citerne qui a fait plus de 70 morts et de nombreux blessés. Jean-Roger Bion.
Une scène déjà vue sur le continent, un camion-citerne prend feu, des témoins se précipitent sur le lieu pour tenter de siphonner le carburant et plusieurs d'entre eux finissent par trouver la mort. Cette fois, cela s'est passé en Tanzanie samedi matin, près de la ville de Morogoro, située à quelques 200 km à l'ouest de la capitale économique Dar es Salaam, sur l'un des principaux axes routiers du pays. Le bilan revu hier à la hausse est de 71 morts et 59 blessés. Après des tests d'ADN et les autres formalités d'usage, la plupart des victimes ont été enterrées dimanche, non loin de l'endroit où s'est produite l'explosion, lors d'une cérémonie dirigée par des leaders religieux musulmans et chrétiens, en présence du premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa. Quant au président Magufuli, il s'est rendu au chevet des blessés dans un hôpital de Dar es Salaam. Une enquête aura lieu sur cette catastrophe qui rappelle tristement d'autres du même genre, notamment le mois dernier au Nigeria, 45 morts et 100 blessés. En 2015 au Soudan du Sud, 203 morts. Et en 2010 en RDC, 292 morts.
Plus de 400 migrants sont hébergés sur les navires humanitaires Open Arms et Ocean Viking après un troisième sauvetage effectué par ce dernier bateau près de la Libye. Mais aucune solution n'est en vue pour leur accueil. La plupart des rescapés de l'Ocean Viking sont soudanais, même si le premier bateau secouru vendredi transportait aussi des Sénégalais et des Ivoiriens, allait travailler en Libye et rattrapé par la guerre.
Au Soudan, 3 personnes ont été tuées dimanche dans des affrontements entre cultivateurs et éleveurs au Darfour, une région de l'Ouest ravagée par des années de guerre. C'est ce qu'a annoncé un comité de médecins proche du mouvement de contestation qui a conduit à la chute du président Omar al-Béchir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les candidats démocrates à la présidentielle de 2020 s'en sont pris hier au président Donald Trump pour avoir retweeté une théorie du complot sur le suicide apparent du financier américain Jeffrey Epstein dans une prison fédérale. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Face aux multiples commentaires suscités par l'apparent suicide de Jeffrey Epstein samedi, le procureur général américain William Barr a déclaré qu'il allait autoriser 2 enquêtes, l'une par le FBI et l'autre par le service du ministère de la Justice. Monsieur Barr s'est dit consterné par la mort d'Epstein alors qu'il était détenu par le gouvernement fédéral. Selon lui, ce décès soulève de sérieuses questions auxquelles il faut répondre. Epstein, qui entretenait des liens d'amitié avec Trump, Clinton et le prince Andrew de la Grande-Bretagne, risquait d'être condamné à 45 ans de prison s'il avait été reconnu coupable d'avoir orchestré un réseau de trafic à des fins sexuelles et d'avoir abusé sexuellement de dizaines de mineurs. Samedi après-midi, le président Donald Trump s'est servi de son médium préféré, Twitter, pour promouvoir des théories du complot sur la mort du financier, notamment en retweetant une affirmation sans fondement selon laquelle l'ancien président Bill Clinton était impliqué. 2 candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de l'an prochain, Beto O'Rourke et Cory Booker, s'en sont priés au président, affirmant que Trump utilise sa fonction pour attaquer ses ennemis politiques sur des bases non fondées.
À Jérusalem, des affrontements entre policiers israéliens et fidèles sur l'esplanade des mosquées, au lieu de tensions dans la ville sainte, ont fait des dizaines de blessés palestiniens dimanche, jour d'importantes commémorations juives et musulmanes. Au premier jour de l'Aïd al-Adha et après la prière à la mosquée Al-Aqsa, située au milieu de l'esplanade, des centaines de Palestiniens ont commencé à scander en arabe « Par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifions pour toi Al-Aqsa ». Face aux tensions, la police a dû bloquer temporairement l'accès du site aux Juifs qui commémoraient de leur côté la fête religieuse de Tisha B'Av.
Le groupe État islamique a promis dimanche d'intensifier son combat contre la coalition internationale dirigée par les États-Unis et leurs alliés kurdes en Syrie. C'est ce qu'il a dit dans la 2e vidéo de ce genre postée sur son organe de propagande depuis la chute de son califat autoproclamé en mars.
Au Guatemala, le conservateur Alejandro Yamatei a été élu hier à la présidence du pays, a annoncé le tribunal électoral en faisant état des résultats préliminaires, je cite, « notoirement irréversibles ». Avec le dépouillement portant sur 95% des bulletins, le docteur Yamatei était crédité de 58,7%. Le parti de son adversaire social-démocrate, Sandra Torres, a reconnu sa défaite. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nanit Talani.
La cession des parts minoritaires de la société sud-africaine MTN dans Mascom Wireless Botswana pour 300 millions de dollars devrait être conclue au cours de ce semestre. MTN compte aussi lancer Music Time, son service de diffusion de musique en continu au Nigeria, l'un des plus grands marchés de la diffusion de musique en continu. La société a également lancé son application de messagerie à Yoba sur 3 marchés d'Afrique de l'Ouest et l'étendra à d'autres marchés. La Banque nationale du Kenya sera prise en charge par KCB d'ici la fin du mois si son offre est acceptée par 75% des actionnaires. En avril, KCB, le plus important prêteur au Kenya en termes d'actifs, a proposé d'acheter la Banque nationale en difficulté par le biais d'un échange d'actions, soit une action de KCB pour 10 actions de NBK. Le Parlement kenyan invite le gouvernement de rejeter cette offre qui sous-estime l'institution financière. KCB, qui opère également en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Sud Soudan, cherche à renforcer sa croissance. Terminons cette minute éco avec les matières premières. L'or a fini la semaine en hausse, atteignant même son plus haut niveau depuis 6 ans. Mercredi, l'once d'or valait 1 510,50 $ pour la première fois depuis début 2013. Pour sa part, le cuivre a baissé à 5 640 $ la tonne, soit son plus bas prix en 2 ans.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec les préliminaires à l'aide des compétitions africaines des clubs.
Oui, et en Ligue des Champions, l'Étoile sportive du Sahel a été battue de 1 par Afia de Conakry à la dernière seconde sous une pluie battante. L'autre club guinéen, le Oroya, est allé chercher le nul 1 partout à Bamako contre le Stade malien. L'AS Vita Club de Kinshasa s'est contenté d'un 0-0 piège au Cameroun sur le terrain de l'USM de Lomé. Même score entre les Ivoiriens de SOA et les Mauritaniens de FC Ouagadougou. De son côté, le champion d'Afrique 2016, Mamelodi Sundowns, a chuté 2-1 au Congo sur le terrain de l'AS Otoho.
Notons, Élisée, la belle performance des clubs algériens.
La JS Kabylie s'est imposée 1-0 face au Soudanais d'Almeriek, pendant que l'USM d'Alger s'est imposé au Tchad 2-1 devant les Sony Depot. Bonne performance également pour les clubs zambiens, CESCO United et Great Eagles, vainqueurs respectivement des Great Mamba 2-0 et d'Orlando Pirates 1-0. Kano Pila du Nigeria remporte son duel contre les Ghanais d'Asante Kotoko, score 3-2. Le second représentant nigérien, Enim chute au Burkina Faso 1-0 devant Raimo. Et puis le Raja de Casablanca ramène un nul 3-3 de la Gambie contre Brikama United.
Match nul entre le champion du Bénin et celui du Togo.
Les Buffs du Bogou tenus en échec à domicile 1 partout par la SCK de Kara. L'entraîneur du club de Parakou, Amilou Aruna, s'est dit très déçu.
C'est un sentiment de déception qui m'anime, il faut dire les mots. Pas forcément du score, mais du contenu en tout cas de ce que nous avons montré au public béninois. Je suis vraiment déçu. C'est vrai, c'est un match nul. L'adversaire a marqué sur nos installations. C'est un léger avantage. Mais je pense qu'au pire des cas, nous aurons dû gérer ce match et garder ce score de 1-0. On n'est pas encore éliminé. C'est vrai, l'adversaire a pris un avantage en marquant sur notre installation. Mais on peut faire autant chez eux.
Et pour le coach togolais Kassim Gouyanzou, la qualification est possible, mais il faut être prudent.
Le match nul n'est pas une victoire, mais non plus on ne refuse pas le match nul. Ça nous permet de mieux se préparer et à Lomé et remporter ça.
C'était quoi l'idée de départ? C'était venir jouer crânement votre chance à Cotonou, essayer de faire un match ici. Le temps de finir le boulot à la maison.
Oui, c'était notre stratégie, mais on ne va pas oublier que l'adversaire aussi est de taille. Donc on a vu là où ça n'a pas marché, on a vu là où ça a marché, on va mieux se préparer et finir le travail à Lomé.
En Coupe de la CAF, belle entrée également du représentant béninois.
Oui, Esaïe a cartonné en Mauritanie sur le terrain de l'ASC Snim pour sa première participation à une Coupe africaine. Le club universitaire de Cotonou a rassuré avant le match retour en l'emportant sur la marque de 5-0. Une première réussie également pour les Égyptiens de Pyramide FC qui ont fait parler la poudre à domicile en disposant 4-1 de l'Étoile du Congo. Notons la victoire 2-1 des Guinéens de Santoba au Nigeria contre Niger Tornadoes. À Lomé, Maranatha n'a pas fait de détails devant les Libéria de l'IS RGR, score 3-0. Enfin, match nul 1-1 entre les Gabonais de Pélican et les Congolais de Maniema Union. Le match entre le Daring Club Motéba Pembe et les Camerounais du Stade Rena a été reporté à ce lundi. Les matchs retour des deux compétitions se joueront dans 2 semaines.
Afro-basket féminin au Sénégal à présent avec la 2e journée des matchs de poule.
Dans le groupe C, l'Angola s'est remise de sa défaite contre le Mali en battant la RD Congo 69-49, deuxième en 2015. Le Cameroun a confirmé son statut face à la Tunisie 95-53 et prend la deuxième place du groupe B derrière le Nigeria. Et puis, exempté lors de la première journée, le Cap-Vert a parfaitement lancé sa compétition en battant le Kenya 64-57. Enfin, dans la poule A, la Côte d'Ivoire se relance après sa victoire face à l'Égypte 71-67.
Cyclisme pour terminer avec l'épilogue hier du Tour du Congo.
Et c'est le coureur rwandais Jean-Claude Nzafashwanayo qui a remporté la 7e édition de cette compétition. A noter que la dernière étape courue dans les rues de Kinshasa a été remportée au sprint par le Burkinabé Nkema Bashiru.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le professeur Jean-Jacques Muyembe, spécialiste du virus Ebola, a pris la tête du comité d'experts chargé de la riposte au mois de juillet. En visite ce week-end à Beni, épicentre de cette épidémie qui a déjà fait plus de 1800 morts, le professeur Muyembe a estimé que des ajustements de la stratégie sont nécessaires dans la région afin de renforcer l'implication des communautés. Reportage de notre correspondante Patricia Huon.
Le professeur Jean-Jacques Muyembe est l'un des hommes qui ont permis la découverte du virus Ebola. La République démocratique du Congo a déjà connu plusieurs épidémies, mais elles n'ont jamais pris l'ampleur de celle qui sévit actuellement à l'est du pays.
Les 9 premières épidémies que nous avons eues jusqu'à présent, la plupart c'était dans des régions reculées, il n'y avait pas tellement de mouvements de population. Ici, ce climat d'insécurité ne permet pas à nos équipes de suivre les contacts et également c'est une population traumatisée par plusieurs années de guerre. Donc, ils n'acceptent pas facilement.
Un contexte différent qui demande donc des solutions adaptées et une approche pas seulement médicale.
Le problème d'Ebola, ce n'est pas seulement le problème de santé publique. C'est comme ça que nous voulons rendre ça multisectoriel. Nous allons beaucoup utiliser les membres de la société civile, les leaders d'opinion, les prêtres, les pasteurs. En même temps, nous voulons utiliser le plus possible des locaux et faire l'ancrage de la lutte dans les systèmes de santé actuels.
Jean-Jacques Muyembe pense aussi que l'introduction d'un deuxième vaccin expérimental, pourtant controversé, pourrait aider à stopper la chaîne de transmission.
C'est une nécessité. Nous combattons l'épidémie avec le vaccin RVSV de Merck. Mais si nous pensons à prévenir dans les régions où l'épidémie n'est pas encore arrivée, ce serait mieux donc d'utiliser ce deuxième vaccin. Cette maladie n'a pas encore de vaccin homologué, n'a pas encore de médicaments homologués. Donc nous devons essayer tout ce que nous avons. Et le vaccin Johnson & Johnson, ça donne de bons résultats, semble-t-il, comme prévention.
Mais pour le professeur, la priorité est de permettre aux communautés de comprendre et de s'approprier la riposte, la seule approche selon lui pour que celle-ci puisse être efficace. À Beni, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les ex-combattants ninjas attendent toujours leur réinsertion socio-économique malgré la signature de l'accord de paix en décembre 2018. Ils sont des centaines à se heurter à des difficultés dans les villages en l'absence d'activités lucratives. Ces ex-ninjas appellent les autorités à accélérer le processus de leur prise en charge. Reportage d'Arsène Séverin.
Désarmés et cheveux rasés, on reconnaît désormais ces ex-combattants ninjas par des petits groupes qu'ils forment dans les villages ou par les motos Jakarta que les quelques rares fortunés utilisent pour se déplacer. Mais pour la plupart, c'est la grande misère.
Depuis qu'on a sorti de la guerre, ça fait déjà 3 ans. Aucune assistance, ça nous fait pitié. Donc je ne sais pas l'accord qu'on a signé le vrai patient et le gouvernement. Est-ce que c'est un vrai accord ou est-ce un faux accord? On a donné les armes au gouvernement ou à l'armée jusqu'à aujourd'hui. Aucune assistance.
Si l'œuvre Depuis la sortie de guerre, nous n'avons rien. Les jeunes manquent d'activité et ne peuvent subvenir aux besoins de première nécessité de leur famille.
Les familles nous ont négligés par rapport à ce que nous faisons. Les familles disent que ce que nous faisons n'est pas correct au pays. Mais pour bien voir, c'est correct, c'est direct. On travaille des champs. Bon, les champs, je suis sûr que pour la nourriture, mais tu ne peux pas faire la vie pour ces champs. Donc c'est difficile.
Même les populations qui les côtoient lisent la pauvreté des ex-combattants ninja en stand-by depuis 3 ans, attendant leur réinsertion socio-économique.
Parfois, ils ont leur champ pour vivre. Ils peuvent faire l'huile de palme, aller dans les villages lointains. Mais en tout cas, ils ont des difficultés de déplacer. Parfois, les gens qui ont des enfants, ils prennent des bidons d'huile et aller à Lulombo là-bas, vraiment. Donc, en tout cas, ils ont des difficultés.
Assistant à la réhabilitation d'une piste agricole à Lulombo, le sous-préfet de Mindouli, Francis Ntela, estime que ces petits boulots peuvent aider.
Mais aux ex-combattants, ça donne une occupation avant les avancées du programme d'aide. Donc, c'est déjà une chose heureuse qui les occupe et évidemment qui leur donne de quoi subsister et certainement aussi de quoi pouvoir entreprendre demain.
À la suite de l'accord de paix signé en décembre 2018 avec le gouvernement, les ex-miliciens ninja ont été démobilisés et désarmés. Aujourd'hui, ils s'impatientent de voir que leur réintégration n'arrive pas. Anne-Philippe Bibi, l'un des porte-parole du pasteur Ntomi, relativise.
Le DDR, nous l'avions dit également à maintes reprises, que nous avons eu à organiser plus ou moins deux aspects les plus importants, notamment la démobilisation et le désarmement des ex-combattants à hauteur de 8007 armes qui ont été ramassées. Ce n'est pas rien du tout. Il ne reste que le grand R, donc la réintégration et la réinsertion. À partir de ce moment-là, nous attendons simplement que les choses se soient mises en place, que finalement nous puissions mettre en exergue et en lumière l'aspect concernant la prise en charge effective des ex-combattants.
Le gouvernement et ses partenaires continuent de rechercher les 12 milliards de francs CFA nécessaires à la réinsertion des ex-combattants dans le pool. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En août 2019, 59e anniversaire de l'indépendance du Tchad, et c'est ce lundi 12 août qu'a lieu à N'Djamena, la capitale, le défilé militaire. Mais quel bilan après presque 6 décennies? Les avis des acteurs de la vie publique sont partagés, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kotmadjinger.
Le Tchad est indépendant et souverain.
Indépendance, Tchad-Tchad.
Feu François Ngarta Tombanbaye, premier président tchadien, proclama officiellement l'indépendance du Tchad le 11 août 1960. Une indépendance qui, pour les uns, est un état d'esprit et pour d'autres, une conquête permanente au regard des défis d'aujourd'hui et de l'avenir.
Si les pères fondateurs de notre pays n'ont pas pu modeler une république terre d'opportunités pour tous, reconnaissons ensemble qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
Docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, avec un regard critique, il fustige le comportement des dirigeants qui, après 59 ans d'indépendance, laisse mourir à petit feu une catégorie de Tchadiens.
59 ans plus tard, environ 4 millions de nos compatriotes, victimes de la famine, n'ont rien à se mettre sous la dent. 4,5 millions d'enfants sortent du système scolaire avant 15 ans. Et nous, les politiques, nous offrons à ces compatriotes le spectacle d'un film, d'une sorte de théâtre, mais en fait responsable de rien quand il s'agit de la vie des Tchadiens.
En 59 ans d'indépendance, le président Déby seul totalise environ 30 ans de pouvoir. Madame Bourg Louis Ngaradoumbri, membre de la majorité présidentielle, estime que le président a consacré plus de la moitié de son règne à gérer des conflits sanglants.
Si ce n'est pas la rébellion, c'est le problème des éleveurs agriculteurs. Donc, c'est ça qui a affaibli le régime MPS. Aujourd'hui, c'est complété avec le conflit de Boko Haram.
Pour Dobien Assingar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'indépendance a été octroyée aux Tchadiens par la France, qui continue à tirer les ficelles à travers ses ingérences politiques et militaires. Il se rappelle encore la modification de la Constitution en 2005.
Un constitutionnaliste français dont je ne me rappelle pas le nom qui m'a obligé à changer de constitution. Où est la souveraineté et où est l'indépendance du Tchad? Ça s'appelle de l'ingérence, simplement. C'est tout.
Pour le secrétaire national aux affaires juridiques et politiques du parti au pouvoir Jean-Bernard Padaré, la France a demandé à Déby de modifier la Constitution simplement pour l'aider à lutter contre Boko Haram dans la sous-région.
À l'époque, il a dit cette phrase-là quand ces journalistes français l'accusaient de
s'éterniser au pouvoir. Quand un ami constate que quelque chose de dangereux peut vous arriver et qu'il suggère d'améliorer cela, vous pensez que c'est une ingérence? Si la France laissait faire, il y aura l'immigration.
André Kodumadjingar pour VOA Afrique, Djamena.
Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a promulgué la semaine dernière le nouveau code pénal burkinabé qui, entre autres, punit la divulgation de certaines informations liées aux actes de terrorisme, entrave à la liberté de presse et d'expression, disent des confrères de Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le nouveau code pénal porte sur quatre principales infractions. La participation, je cite, à une entreprise de démoralisation des forces de défense et de sécurité. La publication d'une fausse information de nature à faire croire qu'une destruction de biens ou une atteinte aux personnes a été commise. La publication et la diffusion d'informations relatives aux déplacements, à la position géographique, aux armes des forces de défense et de sécurité de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens. Et enfin, je cite, la publication en direct d'images ou sons de nature à compromettre le déroulement d'une opération ou d'une intervention des forces de défense et de sécurité en cas de commission d'actes de terrorisme. Fin de citation.
Elle n'est pas seulement liberticide pour la presse, mais elle est aussi liberticide pour les citoyens lui-même dans le cadre de l'exercice de son droit constitutionnel à l'information, mais également aussi la liberté d'expression qui est reconnue par la même constitution.
Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Les Reporters, par ailleurs président de la Société des éditeurs de presse privée.
Cette loi, ainsi adoptée et promulguée, risque de créer beaucoup plus de soucis qu'elle ne résoudra, parce que moi je vois mal effectivement un journaliste qui se mettrait en retrait par rapport à une question d'attaque terroriste ou peut-être qu'il y a une loi effectivement qui a été adoptée et qui peut l'en empêcher.
Pour les organisations de défense des droits humains, il y a véritablement atteinte
aux libertés publiques et aux droits humains.
Urbain Yameogo, directeur exécutif du CIFDA, Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique.
Notamment la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse et le droit à l'information. Donc des citoyens qui sont reconnus aussi bien dans notre constitution que dans différents instruments donc, que le Burkina Faso a ratifié, notamment l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La loi a été promulguée par le président du Faso, Roch Kabore, le 31 juillet et le décret a été publié dans un numéro spécial du journal officiel le 1er août. Cela n'est pas une surprise du point de vue de la forme, selon l'analyste politique Siaka Koulibaly.
Le chef de l'État ne peut pas contredire un projet qui a été mûri dans son équipe gouvernementale. Et cela donne encore plus d'espace à l'arbitraire parce qu'il reviendra aux acteurs de la justice, du système judiciaire, de déterminer en quoi une information devient attentatoire à l'ordre public. Donc là, on aura une situation de recul du point de vue des libertés.
Les quatre infractions de ce nouveau code pénal sont punies, chacune d'une peine d'emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 300 000 à 2 millions de francs CFA. La peine peut aussi être lourde. Un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Mépris, discrimination, voire agression, le rejet des Noirs reste fort dans les pays du Maghreb. Le Maroc, pour sa part, veut se positionner en terre d'accueil en multipliant les campagnes de régularisation. Mais cette ambition s'avère plutôt difficile à réaliser. Notre correspondante Elam Lecoeur à la rencontre de subsahariens à Tanger.
C'est invivable, nous sommes exposés aux maladies, nos femmes sont exposées aux maladies.
Paul loue avec sa femme, son fils de 4 ans et une belle-sœur, un studio de 4 mètres carrés à peine dans un quartier éloigné du centre-ville. Le propriétaire marocain encaisse sous le manteau 100 euros par mois pour ce logement qui ne respecte aucune norme. À l'intérieur, la chaleur est étouffante, l'air est irrespirable, l'humidité et la moisissure recouvrent les murs, pas de fenêtre non plus pour aérer. Et quand Paul et sa famille sortent du taudis, eh bien l'enfer continue.
Parfois, ils nous appellent Asie, parfois ils nous appellent esclaves, ils nous appellent parfois singe.
Asie signifie nègre en arabe dialectal marocain. Et cela fait plus de 6 ans que le Camerounais vit le racisme au quotidien, a commencé dans les services publics.
Le noir n'est pas bien accueilli. Parfois, vous êtes rejeté. Parfois, un jour, on a amené un frère qui était blessé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin ne voulait pas le toucher parce que c'était un noir. Parfois, on appelle l'ambulance, même le service de secours. Quand un noir est par terre, blessé, bien malade, ils arrivent tardivement.
Logement insalubre, hors de prix. vie, marchand de sommeil, travail au noir, une véritable économie parallèle se fait sur le dos des migrants.
Quand je travaille dans le chantier avec les Marocains, je travaille 7 jours, il me dit, bon, je n'ai pas d'argent, je te donne d'abord 3 jours. Mais il a payé tous ses frais marocains, donc il ne m'a pas payé mon argent juste pour lui. Et si tu vas à la police ne va rien faire, ils vont vous demander, ils vont vous arrêter même pour refouler hors de la ville d'étranger.
Paul s'estime chanceux d'avoir trouvé un toit, car pour d'autres subsahariens, la roue n'a jamais tourné. Pierre Calvin a élu domicile dans la forêt tangéroise depuis 2014. Le champion de boxe, comme le surnomme ses amis, rêve de partir en Europe. En attendant, il doit supporter la discrimination.
La xénophobie est intense. Tu ne peux pas emprunter un bus sans qu'on attrape le nez. Comme si l'autre dit même, enlève ton pantalon pour voir si tu as la queue. Nous vivons le racisme tous les jours. Tout ça parce qu'on rêve d'aller en Espagne. Je me demande vraiment ce que nous on a fait de mal. J'espère qu'être immigrant sur Terre, ce n'est pas un déluge.
Pierre Calvin vit aussi avec la peur au ventre. Il a vu bon nombre de migrants disparaître du jour au lendemain autour de lui.
On ne peut pas marcher librement parce que la police va nous appréhender en civil. Que tu aies les papiers ou pas, on va te refouler. Dans le désert du Sahara. On a les frères qui meurent. Hein.
L'an dernier, près de 1400 migrants sont décédés sur les routes désertiques du continent africain. Des chiffres donnés par l'Organisation internationale pour les migrations qui parlent d'un décompte certainement sous-évalué.
Eh bien, c'était Elham le cœur à Tanger. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.